marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Dans un bureau bien organisé, l'équipement moderne a pour but d'obtenir une efficacité accrue en essayant d'éliminer toute manipulation superflue. Tout le monde y gagne, l'employeur et l'employé.
La vie de bureau.
Bonjour Brigitte, bah t'es déjà là, t'es tombée du lit?
Bah il est 10h Marianne.
10h? Oh, oh là, là là là, j'ai l'impression qu'il est 5h du matin. J'arrive pas à enclencher la journée, je suis crevée.
Bah va falloir que tu te réveilles parce qu'on a un boulot fou.
Oh, heureusement que le week-end s'arrête. J'aurais pas tenu une journée de plus. Ça va me faire du bien me poser au bureau.
Moi aussi.
Ah, Marianne, vous avez finalement fini par arriver.
Oui, Jacques. Bon, j'ai longtemps hésité, et puis bon, hein, comme on était lundi, ça m'est tombé sous le sens.
Notre point de départ ce lundi, ce sera Gaston Lagaffe, et aussi peut-être les Saintes Chéries. À cette époque, s'amorce une transition. Le bureau d'entreprise, en l'occurrence dans Gaston Lagaffe, c'est un journal, présente encore les traits du modèle administratif uniformisateur à la Balzac. Mais les employés tentent de se dessiner un petit domaine individualisé, tandis que les équipements techniques commencent à transformer l'espace. L'informatisation est un des facteurs qui explique la création d'immeubles tout entiers dédiés aux bureaux, souvent loin des centres-villes traditionnels. On va, souvent aussi, y privilégier l'open space, à l'exemple des États-Unis. Il n'a pas gagné sur tous les fronts, mais enfin, il a longtemps fait figure de modèle stratégique. Combien de fois n'a-t-on pas soutenu qu'il favorisait la visibilité, la fluidité? Il faudra ajouter la conformité de chacun. Workplace, changement de l'implantation géographique des bureaux. Open space, changement de leur disposition. Maintenant, la tendance serait, notez bien, à l'open desk. Le salarié, de plus en plus itinérant, se pose où il peut, au siège de sa société, les jours où il la rejoint. Et le soir, il fait place nette, clean desk. Le nouveau modèle, en fait, c'est l'hôtellerie. Une conciergerie, des espaces pour le travail ou pour la conversation, et sinon des chambres, du moins des hamacs ou des canapés. Sans oublier le coin baby-foot, très important le baby-foot, ou le ping-pong pour le fun office. Tout ceci se dit, en effet, en novlangue. Ne sont évidemment concernés par ce californisme sucré que peu de salariés. Il n'empêche l'évolution de la vie de bureau depuis Gaston Lagaffe, même si nous ne l'avons connu qu'en images, dans les magazines, les émissions de télé, a de quoi déconcerter. Elle s'apparente, comment dit-on aujourd'hui, à une disruption. Au secours, il faut nous reprogrammer.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec l'aide, ce saint lundi, de Nicolas Santolaria. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste nomade lui-même, non?
Oui, tout à fait, nomade.
Depuis 2 ans et demi, vous tenez une rubrique au Monde, très remarquable, qui s'intitule Bureautique. Et vous avez au Monde un bureau?
Pas du tout, non. Mon bureau est itinérant, c'est mon ordinateur portable, comme beaucoup de travailleurs aujourd'hui. Donc je travaille essentiellement chez moi, mais de temps à autre aussi dans les cafés, où on trouve beaucoup de freelance aujourd'hui.
Donc vous n'êtes pas un loukoum sédentaire, mais un homme itinérant.
Oui, il m'arrive aussi d'être un loukoum sédentaire. Mais...
Ce qui est intéressant dans le livre « Le syndrome de la chouquette » que vous avez publié il y a peu chez Anna Moza, la tyrannie sucrée de la vie de bureau, c'est que vous avez un spectre très large dans l'espace, mais aussi dans les années, parce que vous avez commencé à travailler il y a fort longtemps.
Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. J'ai connu une époque dans les journaux, il n'y avait pas encore d'ordinateur, où il y avait même des secrétaires, un petit peu comme dans la série Mad Men, qui retapaient les textes. Et c'est vrai que c'est allé très, très rapidement, en fait, cette évolution avec la micro-informatique. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Et nous-mêmes, notre façon de travailler a changé, parce qu'on se demande aujourd'hui comment on arrivait à produire des articles sans internet, où on trouvait les informations. C'est une sorte de curiosité comme ça, rétrospective. Je ne sais pas si j'arriverai encore à faire un article sans le web.
Alors, vous allez évoquer d'ailleurs les bureaux d'autrefois. Moi, je pourrais évoquer ceux de la maison de la radio. Alors, il y avait de la moquette dans les parties de couloir qui correspondaient à l'accès aux dirigeants. La secrétaire, quand c'était pas un pool de 2 secrétaires, était dans la pièce qui précédait le bureau du directeur. Il n'y avait pas trop de directrices. à l'époque, et souvent les directeurs étaient protégés par des doubles portes capitonnées. Il y avait quand même quelque chose qui ressemblait déjà à l'open space. Ailleurs, c'était les poules de dactylo, non?
Oui, oui, c'est vrai que le pool, c'est peut-être l'ancêtre de l'open space, avec une spécialisation quand même par métier, comme vous venez de le signaler. Et ensuite, c'est vrai que l'open space, il y a l'idée aussi de circulation des énergies, des informations. Donc c'est une autre idéologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'open space, j'ai le sentiment que le bureau devient à la fois un espace fonctionnel, mais en même temps une sorte de métaphore de lui-même qui n'arrête pas d'évoluer aujourd'hui, ce qui en fait quelque chose d'assez rigolo à décrypter.
Mais il faut d'abord dire l'irruption du matériel électrique au milieu d'un décor fait de porte-manteaux et sur les tables de crayons, de taille-crayons, de gomme et de tampons. On a complètement oublié le tampon. Gaston Lagaffe va être une référence, mais aussi à Judith et Sainte Chérie.
Monsieur Lagaffe, j'ignore ce que vous bidouillez encore avec ces câbles électriques, mais cette énième panne est la goutte qui met le feu aux poudres, l'étincelle qui fait déborder le vase. À partir de dorénavant, interdiction!
Enfin!
Interdiction formelle d'utiliser tout appareil qui fonctionne peu ou prou à l'électricité!
Messieurs, vous connaissez les grandes lignes de la nouvelle réorganisation de la Sopired. J'ai pris en outre un certain nombre de mesures, toujours en accord avec monsieur le directeur général. Tout d'abord, une chaîne Hi-Fi diffusera de la musique dans tous les bureaux. En effet, une étude faite à Princeton, en Amérique, a prouvé que le rendement du personnel augmente alors de 7,03%. Ensuite, la nouvelle la plus importante, la Sopired va s'adjoindre les services d'un ordinateur, le BSS-417, qui normalisera notre travail et augmentera le rendement général.
Celui qui parle ainsi, c'est le gendre du directeur général. Il a donc autorité dans les Saintes Chéries. Alors, vous vous souvenez de l'introduction de l'ordinateur, de la place qu'il a prise? D'abord considérable dans l'espace, mais pas encore quotidienne dans la vie de chacun.
Oui, c'est vrai qu'au début, l'occupation, c'était énorme, quoi. Les ordinateurs prenaient beaucoup de place. Et ensuite, quand il est arrivé dans les bureaux dans les années 80, il a été immédiatement adopté par les cadres. Et c'est vrai que ça s'est mis finalement à définir d'une certaine manière la vie de bureau, puisque avec l'arrivée de l'iMac, il y a cette métaphore du bureau avec les dossiers, la poubelle. Donc l'ordinateur finalement a capté cette vie salariale et en a fait sa propre métaphore fonctionnelle. Donc du coup, il y a une sorte d'homologie assez intéressante entre l'ordinateur et le travail qui aujourd'hui est en train d'évoluer, on pourra peut-être en parler.
Tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Mais parlez-moi d'abord des immeubles spécialisés, parce que je cite, il faut toujours parler jargon, les exigences technologiques dictent les configurations spatiales. Enfin, ça, c'est du jargon en français déjà. Hein.
C'est vrai que
quartier d'affaires,
immeubles
spécialisés.
Il y a toujours une double lecture. En fait, il y a l'idée que très pragmatique, que finalement, il est toujours moins cher, moins onéreux de rassembler les gens dans le même espace. Et ensuite, on arrive aujourd'hui à cette période-là, c'est des métiers créatifs avec le développement du tertiaire. Et donc, il y a cette idée de circulation, des énergies, de collaboration qui se met en place au travers de l'espace, d'où l'apparition et le développement des open space.
Mais alors ces immeubles, ce sont des immeubles silos, qui sont quand même séparés les uns des autres, et puis dans le syndrome de la chouquette, vous reproduisez plusieurs articles de votre quotidien, Le Monde, où vous décrivez le badge, l'agent de sécurité.
Attention, on n'entre pas ici comme dans un moulin. Et c'est Herman qui contrôle les badges et surveille les accès. Herman est un homme courtois, mais en cas de problème, il peut se montrer inflexible.
On doit toujours, et ça c'est le plus difficile dans ce métier, c'est rester calme quand les autres ils s'énervent. Si nous on reste calme, les gens automatiquement ils vont se calmer après.
C'est qu'il impressionne Herman dans son uniforme de travail. Avec un tel trousseau, on dira que c'est un homme clé pour la sécurité. Là, il va passer l'immeuble au peigne fin. Bureau, couloir, parking, il n'a pas froid aux yeux. Le métier d'agent de sécurité n'est pas toujours tranquille. Les vols, les agressions, ça arrive. Et dans ce cas, Herman doit intervenir. Rappel à l'ordre, intervention parfois musclée, tout cela demande une grande maîtrise de soi.
On a les oreilles et les yeux de la gérance d'un bâtiment.
Alors, l'agent de sécurité, Nicolas Santolaria.
Oui, alors.
D'abord, il vous demande votre nom, Santo.
Oui, oui, alors. Santo. Moi, c'est vrai qu'il se plante tout le temps sur mon nom. Je m'appelle Santo Maria, Santo Ralia, ça dépend. Des fois, mon nom change entre l'entrée et la sortie du bâtiment. Et donc, c'est vrai que ça s'est vraiment accentué, je trouve, avec justement tous les attentats, Vigipirates. Il y a une forme de sursécurisation des entreprises où on va vous demander des tonnes de papiers pour rentrer, on va vous donner un badge. Enfin, on a l'impression de rentrer au Pentagone, d'une certaine manière. Et l'agent de sécurité, il symbolise ça, et c'est vrai qu'il y a souvent, il est extérieur lui-même à l'entreprise, il est dans une situation de précarité, donc on va vivre des quiproquos comme ça hallucinants, et on peut rester coincé de longs moments devant une entreprise, parfois même les salariés qui y travaillent aussi peuvent rester coincés, et c'est vrai qu'il y a un côté bunker, une bunkerisation comme ça des boîtes, voilà, et moi je suis toujours assez étonné par les procédures qui je pense s'apparentent parfois à ce qu'on peut vivre en prison.
Libération, vous y étiez, naguère, rue Béranger, et maintenant dans un immeuble près du Pentagone français, près de Ballard, avec des services de sécurité extrêmement pointus. Il faut donner son passeport, ses papiers d'identité, et on les garde.
Ouais. Ça a beaucoup changé, parce que c'est vrai qu'à l'époque, à Libé, c'était une sorte de moulin hallucinant, et les gens rentraient comme ça. Je me souviens que je vais pas citer son nom, mais la personne de l'accueil, le soir, vendait avec la balance du courrier du cannabis, donc il y avait un côté très libertaire. Il y avait même eu une grève de la faim assez hallucinante dans le hall, donc tout ça aujourd'hui paraît quasiment impossible, et on se rend pas compte à quel point la sécurisation a gagné ces dernières années. C'est vraiment assez galopant, et je trouve que c'est même assez flippant pour les salariés eux-mêmes, puisque finalement ils deviennent quasiment étrangers à leur propre structure, ils deviennent finalement des papiers, des documents, des badges. Et voilà, on perd en convivialité d'une certaine
façon. C'est dans ce sens que le mot licenciement signifie libération.
Ouais, ouais.
À Libération, le journal, l'Open Space régnait, et c'était une vis.
Ouais. Oui, c'est un ancien parking, ancien parking à l'américaine, et le couloir central justement s'appelait la vis, ce qui est également le terme qui associe un instrument de torture du Moyen Âge.
Et on arrivait à des plateau, l'open space.
Tu vas le tabattre tous les murs, de mon bureau à ici, pour faire un hall immense, nous travaillerons tous comme dans des petites cases en verre.
On fera comme dans un aquarium, alors?
Exactement. Du reste, c'est le but, avoir un œil sur le personnel, comme ils disent.
Il faut redynamiser l'ensemble. Vous connaissez le Corbusier?
Ah bah bien sûr, comme tout le monde.
Moi, j'envisage une déstructuration totale de l'espace, dans un processus lacanien. On enlève tout, les dalles de moquette. Oh, ça spine la moquette. Oh, et non, le béton fait son grand retour, l'année 2003 sera l'année du béton.
Et en ce qui concerne l'équipement, l'état, vous avez pensé à un designer?
Tasbin, le design. Non, non. D'une manière générale, le meuble est tasbin. Non, on enlève tout, la peinture aussi. En 2003, le mur est nu. Pas de table, surtout.
Ah, vous voulez dire plus de table du tout?
Exactement. Oh. C'est l'idée du meuble qui compte aujourd'hui. Ouais. L'année 2003 sera l'année de l'idée du meuble, voire de son souvenir.
Oh, c'est conceptuel.
Alors ça, c'est pas tout à fait le style des Saint-Chéry. On est un peu plus tard, au temps de l'Open Space triomphant, caméra, café de Bruno Solo. L'Open Space.
Oui, c'est vrai que l'open space, comme on l'a entendu dans l'extrait, c'est la disparition des cloisons. On se retrouve dans un espace ouvert. Et ce qui pouvait paraître au départ assez fonctionnel et utile justement pour aider à faire germer le processus créatif, va se révéler assez contre-productif, puisque finalement on se rend compte que les gens se parlent très peu dans les open space, qu'il y a une forme de... Finalement les gens perdent cette privauté qui leur permettait de se projeter vers l'autre. Et donc c'est des espaces qui sont devenus extrêmement silencieux, on n'entend aucune mouche voler dans ce genre d'endroit. Du coup, il y a une recréation d'espaces de privauté ailleurs.
Mais sur le silence, le téléphone.
Les gens ne téléphonent pas dans les open space, c'est très très mal vécu. D'ailleurs, il y a ce syndrome du collègue qui parle trop fort. Il y a toujours un gars qui se rend pas compte qu'il y a un silence absolu, et il se met à déclamer comme ça, de manière vociférante. Et donc, il est très mal perçu par ses collègues. Souvent, quand on redessine justement où les gens vont s'implanter, les gens ne veulent absolument pas se mettre dans son secteur. Il y a même des start-up aujourd'hui qui travaillent à atténuer le bruit avec des systèmes acoustiques très perfectionnés. Donc, Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une véritable focalisation, une obsession du bruit aujourd'hui, et c'est assez curieux, puisque finalement, c'est complètement à l'inverse de ce que devait être l'open space, un espace bouillonnant, créatif.
Mais une salle de rédaction, pour regarder, comme dans Gaston Lagaffe, l'exemple d'un journal, ça bruissait de coups de téléphone dans les langues les plus diverses, et c'était très amusant d'ailleurs d'entendre les conversations par segments. Maintenant, on téléphone dans les couloirs. Et alors, pour gagner du temps ou pour être plus performant, il faudrait d'ailleurs peut-être téléphoner sur les tapis roulants. Pour commander ça.
Ouais. C'est vrai que le fait de rester statique toute la journée, c'est quand même, il faudrait être quasiment un yogi pour y arriver, quoi. Et c'est mauvais pour le corps. C'est un côté mortifère. Donc aujourd'hui, il y a cette mode du tapis roulant ou du bureau debout aussi. Les gens vont travailler debout pour faciliter la circulation sanguine. Il y a tout un tas d'inventions comme ça qui se mettent en place. Alors ça rappelle aussi un petit peu la souris dans son, ou le rat dans sa roue, quoi. Mais
l'open space, dites-vous, je sais pas, c'est comme une façade de Jean Nouvel, c'est mieux quand il n'y a pas de fleurs, de rideaux, d'ornements, c'est mieux sans vous d'ailleurs.
Ça peut être, ouais, tout à fait. L'open space peut fonctionner sans le salarié. Comment dire? Oui, aujourd'hui, il y a toute cette mode aussi du, ce qu'on appelle le design biophilique avec l'apparition de, le retour des plantes, on a des murs végétaux, etc. Tout ça, ça part de théories. Il y a énormément de théories, en fait, qui circulent autour du bureau. Donc, ça part de l'idée qu'on a vécu plus longtemps dans des forêts entourées de mammouths que de collègues travaillant avec des ordinateurs. Donc, il faut recréer cette espèce d'environnement qui nous reconnecterait avec la nature. Et c'est assez marrant de voir qu'en entreprise, souvent, les théories sont, vu qu'elles sont instrumentalisées, Elles en viennent à aboutir à souvent à quelque chose de ridicule, et c'est ça qui est assez cocasse dans le monde du travail.
Donc, le mur de plantes vertes. Gaston Lagaffe, lui, il avait une autre solution.
Eh bien, aujourd'hui, le cercle s'agrandit, car Gaston s'est fait un nouveau pote. Oui, oui, un nouveau pote. Le cactus. En poussant un peu... Oh là, le bâton, Jules. Ça casse, les cactus.
Ça pique surtout, hein. Oh,
bonne idée, ça, Gaston. C'est sûr qu'il est bien, là. Juste derrière le coin. Comme ça, les gens tournent et vlan, ils s'envoient quoi? Un cactus. Virez-moi ce truc d'ici, Zou.
T'as un problème avec la nature et les animaux?
Absolument pas. Expliquez juste en quoi ils sont nécessaires au travail de bureau. Allez, prouvez-moi qu'ils sont capables de rendre ne serait-ce qu'un service à ce journal. Tic-tac, tic-tac,
ça cherche, là.
Car si c'était le cas, il pourrait rester pour toujours. J'irai cracher, et devant témoin. Quoi, le cactus? Tu veux dire son grand cactus?
Oui! Il s'est redescendu tout seul du grenier jusqu'à son bureau. C'était épique!
Oh, du Dieu, non, du Dieu. La gaffe, je n'ai rien dit pour votre plante grimpante.
Mais
ça, je suis content.
À des 78 épisodes de l'adaptation de Franquin par Alexis, La Via et le studio Normal. Normal avec deux A, comme dans Santolaria.
Hein? Ouais.
Si?
Oui, tout à fait.
Ah non, il y en a trois.
Santo, je sais pas, il faudrait que je calcule.
Si j'étais un agent de sécurité, je lui demanderais vos papiers. Alors... La gaffe, il veut personnaliser, puis il veut des marqueurs.
Bah la gaffe, c'est vrai que il peut apparaître ridicule par certains côtés, mais en même temps, c'est une forme de pionnier, puisque tout ce qu'il a expérimenté dans les bandes dessinées, on le retrouve aujourd'hui dans les startups. Donc bah les plantes, ce qu'on vient d'entendre, il y a aujourd'hui les corporate gardens, qui sont des jardins d'entreprise. Mais en même temps, cette idée de développer une créativité personnelle au sein même de son travail, c'est quelque chose de très moderne qu'on retrouve aujourd'hui et que les entreprises vont favoriser. Donc finalement, Gaston, c'est une sorte de précurseur. Et je le vois aussi comme quelqu'un qui il procrastine tout le temps, en fait, Gaston. Il fait jamais son travail, il a tout le temps du courrier en retard. Et c'est quelque chose aussi, aujourd'hui, qui est mis en avant, puisqu'il y a même des cours de procrastination dans une université.
Des cours qui recommandent remettre à plus tard.
Oui, il y a un universitaire américain qui fait ça. Ce sont des cours de procrastination productive, avec l'idée que finalement, le temps qu'on va passer sur Internet, sur Facebook, à se balader, à faire autre autre chose que son travail. C'est aussi un temps productif qui permet de faire germer des idées, d'avoir de nouvelles pistes pour le futur. Et c'est encouragé par certaines boîtes, même par des grosses boîtes, puisqu'il y a les boîtes comme Google, Facebook, encouragent leurs salariés à développer des projets personnels. C'est exactement ce que faisait Gaston quand il créait son espèce de harpe géante. Voilà, aujourd'hui, c'est, je dirais, normalisé quasiment dans certaines boîtes.
Alors, si on regarde les meubles dans l'open space, qu'est-ce qui a évolué ?
Bon, on a moins de tiroirs à roulettes, hein, j'ai l'impression. À l'époque, le tiroir coulissant est assez emblématique des débuts de l'open space. Et aujourd'hui, même parfois, on n'a même plus de bureau, puisqu'il y a cette mode du... Vous parliez du flex desk, on appelle ça aussi le hot desking. Ça, c'est la version assez poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a moins de bureaux que de salariés. Donc, les gens courent le matin pour arriver et réussir à avoir une place. Avec, je dirais, cette idée quand même en filigrane qu'on va plus pouvoir personnaliser son bureau et en faire une sorte de mini chez soi, ce qui était le côté assez sympa du bureau aussi. On mettait la photo de ses enfants, comme vous disiez, une plante verte, et on se sentait un peu chez soi. Aujourd'hui, il y a une forme de dépersonnalisation, de déterritorialisation du salarié.
Oui, mais en même temps, il y a une sorte d'effacement apparent des marqueurs hiérarchiques, puisqu'il n'y a plus que deux ou trois modèles de chaises, et non pas 10 comme autrefois.
Oui, alors ça, c'est, je dirais que c'est une forme de comédie de la transversalité, puisqu'aujourd'hui, il y a tout ce discours de dire... on va dire que les entreprises sont moins hiérarchisées, que finalement dans un modèle plus rhizomique, plus égalitaire. Mais en réalité, la chefferie reste bien présente, sauf que tous les marqueurs sont gommés, justement. Vous parliez de marqueurs symboliques. Ils sont aujourd'hui effacés, mais finalement, le chef reste le chef.
Et il y a une multiplication des poubelles aussi, c'est très intéressant ça.
Oui, il y a une multiplication des poubelles, il y a même des...
Moi j'en ai deux fois plus que l'année dernière.
Peut-être que vous jetez plus ou...
ou pas bien.
Ou pas bien, mais oui, il y a une multiplication des poubelles. Il y a aussi cette nouvelle mode de la collecte de déchets en entreprise. Avant il y avait le saut à l'élastique et maintenant on va avec sa boîte collecter des déchets et c'est une forme de mode d'intégration à l'entreprise.
Le braque, viens voir, viens voir, regarde cette merveille, admire la beauté, ma nouvelle invention.
Gaston, où en êtes-vous de ce tas de courrier de...
Poubelle à pédale, mon vieux, conception révolutionnaire.
Gaston, montre-nous le chemin, Gaston, ouvre-nous la voie, Gaston, change notre quotidien et tous les stupides objets qui vont avec. Entrons dans une autre dimension, celle de l'imagination.
Gaston, précurseur, c'est ce que vous nous expliquez, Nicolas Santolaria. C'est un ajout à votre livre, Le syndrome de la chouquette, la tyrannie sucrée de la vie de bureau. C'est notre thème aujourd'hui, c'est un livre chez Anamosa. La nouvelle ère, vous l'appelez, avec d'autres, poubellocène. Alors bon, d'accord, comme il y a l'anthropocène. Mais il y a d'autres signes encore de l'entrée d'une nouvelle ère. Le modèle, on a l'impression que c'est l'hôtellerie maintenant. Monsieur Drahi, propriétaire de Libération et qui a installé la rédaction avec les autres dont il est propriétaire, l'Express, etc., du côté de Ballard, du côté du Pentagone, transforme l'ancien siège, dont vous avez connu l'époque glorieuse, en hôtel. Béranger.
Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de l'hôtellerie. C'est vrai qu'on voit se développer les concierges aujourd'hui en entreprise qui vont aider les salariés à réaliser les tâches un petit peu basiques, les courses, le pressing, etc., pour que les salariés se concentrent sur les tâches productives. Et finalement, ce modèle, il se développe aussi au travers de l'intelligence artificielle, puisqu'on va avoir une séparation entre des tâches dites improductives ou pas assez nobles et des tâches productives sur lesquelles le salarié est invité à se concentrer. Donc il y a une sorte de surmaximisation de soi au travers de ce modèle justement d'hôtellerie et avec aussi toute la confusion que cela induit puisque finalement on va rester plus longtemps au bureau, c'est aussi sympa que chez soi, il y a un canapé, il y a des jeux vidéo, il y a un baby-foot, pourquoi rentrer chez soi finalement puisque on va même se faire livrer des repas. Donc cette confusion, on appelle ça le blurring, c'est le sort de dissolution entre la frontière de l'intime et du professionnel.
Donc quand l'afterwork déborde trop, c'est
du blurring, c'est la frontière qui se dissout.
Mais le modèle de l'hôtellerie, c'est le modèle de l'hôtellerie de luxe. Je pense à un hôtel pionnier à Pau, au début du XXe siècle, qui s'appelait le Gassion, et où les hommes d'affaires anglais venaient, en même temps qu'ils chassaient au renard, ils faisaient du cheval, réglaient leurs affaires. Il y avait les telex, il y avait les dépêches, il y avait les journaux, il y avait des coins pour écrire, des coins pour parler les uns avec les autres. Ça, c'est important aussi.
Ouais, c'est important. Peut-être juste un petit mot sur ce modèle d'hôtellerie que je trouve assez intéressant comme comparaison. Ça correspond aussi à une bipolarisation de la vie professionnelle où d'un côté on va avoir des profils très recherchés de gens qu'on va choyer et chouchouter comme dans les palaces à l'époque. Et à l'autre bout du spectre, une ultra-précarisation des gens qui vont vous livrer le repas, etc. Donc c'est un modèle comme ça très séparé. Et pour le côté coin Cosette, effectivement, aujourd'hui, on recrée des espaces comme ça. Même la machine à café est devenue un enjeu très très fort pour les entreprises. Il y a une sorte de... Les entreprises ont pris conscience, en fait, qu'il se passait beaucoup de choses autour de la machine à café et que c'était un lieu stratégique. Donc elles tentent de réinvestir cet espace et avec, bon, une bataille autour de la qualité du café, mais pas que. Genre, elles essaient de s'insinuer dans ces moments qui étaient un peu des moments hors travail.
Mais il y a des animateurs pour ça.
Oui.
CHO.
CHO, oui, qu'est-ce c'est vrai que c'est qu'elle. Alors, ça, c'est un anglicisme. Alors, j'ai pas un très bon accent, hein, mais ça signifie Chef Happiness Officer. Et c'est le responsable du bonheur. C'est quelque chose qui nous a importé des États-Unis, de la Silicon Valley, avec cette idée qu'il faut aujourd'hui favoriser les émotions positives en entreprise. Pourquoi ? Parce qu'un salarié heureux sera un salarié plus productif. Donc, d'où le karaoké, d'où les soirées apéro, etc. Et je trouve ça hallucinant, finalement, que quelqu'un soit responsable de vos émotions, ce qui est quand même quelque chose assez intime. On voit là le virage vers ce que la sociologue Eva Illouz appelle les émodities. C'est un mélange entre les émotions et des marchandises. Des émotions qui deviennent si instrumentalisées par le système et qui du coup se transforment en marchandises.
Mais pourquoi faut-il dire tout ça en technolecte?
Alors ça, c'est vrai que c'est une énorme...
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le technolecte?
Technolecte, c'est le langage technique. C'est vrai que...
Mais qui est viral.
Qui est viral, mais qui existait déjà par exemple chez les médecins. C'est un peu le langage des carabins qui permet de vous définir en tant que confrérie. Et donc, quand on arrive dans une entreprise, il y a toujours une forme de dialecte, de bantou d'entreprise qu'il faut arriver à décoder pour se faire intégrer dans le groupe.
Mais enfin, le bantou, c'est du californien.
Oui, c'est du bantou californien, effectivement. Parce qu'il y a énormément de mots en ing, hein, tout se termine en ing aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a web blurring dont je vous parlais. Ça avait commencé avec marketing, hot desking, free sitting. Tout est en... Par exemple, le fait d'avoir quelqu'un qui va vous... Un supérieur qui va vous apprendre le métier, on appelle ça le mentoring maintenant.
Oui, mais enfin, c'est pas supportable ça.
Le fait de déjeuner avec quelqu'un, c'est le co-lunching. Non, c'est vrai qu'il y a un envahissement. Il y a un envahissement et en même temps, c'est une forme de perte d'autonomie dans ce qu'on va projeter aujourd'hui, puisque c'est le modèle de la start-up qui s'impose comme une sorte de référence absolue. Et on n'interroge pas du tout ce modèle, on l'adapte en faisant une sorte d'absolu, de graal entrepreneurial vers lequel on doit courir. À quatre pattes.
Merci à vous, Nicolas Santolaria, le syndrome de la chouquette. La chouquette, c'est le petit truc sucré qu'apporte le chef de service pour faire goûter l'enfance à ses salariés, psychologie élémentaire. Et bienvenue aux stagiaires qui vont arriver.
Écoutez, je suis désolé, j'ai pas de poste pour vous.
Ah.
Mais je peux vous proposer un stage.
J'ai 30 ans.
Mais y a pas d'âge, hein. Et puis à l'heure actuelle, un stage dans une entreprise de moquette, on va pas dire non, hein. Oh oui, non, attendez, pour un stage, c'est très, très bien payé. Hein.
Tu viens déjeuner?
Bah non, j'ai quelqu'un qui m'appelle dans mon ticket de métro, donc...
Bah tu veux que je t'invite?
C'est vrai?
Oh non.
Je serai votre tuteur.
Monsieur,
y a pas le temps, je pars en réunion. J'ai pas le temps, je pars en séminaire.
J'ai pas le temps, là, je pars au ski.
Et attention, hein, avec des horaires à la cool. Hein. Vous êtes quand même stagiaire.
Gaëtan, bonne nuit. Gaëtan, debout.
Gaëtan, assis.
Gaëtan, va chercher.
Allez au boulot.
C'est dommage, hein, quand même.
Ouais, c'est dommage. Ouais,
hein. Il y a la crise, hein, donc il n'y a pas d'embauche. Hein.
Gaëtan, canot de départ, des échantillons de moquette. Voilà, maintenant tu te casses, j'ai un entretien. Allez. Allez, hop.
Pas le temps de faire le générique parce que nous avons de la publicité dans un instant. Et puis, quand même, une petite place pour vous, cher Mathieu Vidard.
Oui, Jean Lebrun, nous sommes là en direct pour parler des lanceurs d'alerte dans un instant dans la tête au carré.
Alors, c'était un lanceur d'alerte qu'on avait en la personne de Nicolas Santolaria à bien des égards.